RFI, 1h en temps universel, 2h à Berlin.
Mathis Limano.
À la une, la victoire des conservateurs en Allemagne. La CDU de Friedrich Merz récolte près de 30% des suffrages aux législatives anticipées, suivi de l'AfD, l'extrême droite qui double son score depuis le dernier scrutin. Le SPD du chancelier Olaf Scholz, lui, dégringole. On est au QG du parti juste après les titres. Le Kenya sous le feu des critiques dans son rôle dans la guerre au Soudan. Également à la une, une charte pour un gouvernement sécessionniste a été signée ce week-end à Nairobi. Le service militaire pourrait faire son retour en Belgique 30 ans après sa disparition. Et puis l'état de santé du pape François continue de se dégrader. Reportage en France à la sortie de l'église où l'inquiétude des fidèles est grandissante. La CDU de retour au pouvoir en Allemagne, donc le parti conservateur mené par Friedrich Merz sort vainqueur des élections législatives anticipées. En deuxième position, l'AfD, score historique de 20% pour le parti extrême droite allemand, et la déroute historique également pour les sociaux-démocrates du SPD, arrivé troisième au siège du parti à Berlin. La pilule est dure à avaler, Julien Chavanne.
La douche était glaciale sous la grande verrière du QG du SPD. La défaite était annoncée, mais elle est dure à encaisser pour les militants comme Larissa.
Pour le SPD, c'est plus mauvais que prévu, beaucoup plus mauvais. Je ne pensais pas que l'AfD allait obtenir d'aussi bons résultats.
Olaf Scholz a subi cette campagne express sans arriver à imposer ses sujets, plombé par la crise économique, impuissant face aux attentats et parasité par les ingérences américaines. Et ce n'est pas une éventuelle coalition avec la CDU qui rassure les sympathisants ici.
Ce n'est pas un espoir, car la CDU a déjà prouvé qu'elle pouvait voter avec l'AfD. Ils ne sont pas fiables. C'est un problème pour les personnes d'origine étrangère.
Le chancelier sortant reconnaît une défaite amère. Avant de laisser son fauteuil, il lance un avertissement à son successeur.
On doit se tenir à ce que tout le monde disait ces dernières années. Pas de coopération avec l'extrême droite. Le SPD doit garder ce cap et on espère que tous les autres vont faire pareil.
Olaf Scholz est éclipsé sans dire un mot sur son avenir. Julien Chavanne, Berlin, RFI.
Et la victoire de Friedrich Merz saluée par Donald Trump qui parle d'un jour historique pour l'Allemagne, le pays avec qui Emmanuel Macron veut faire de grandes choses, dit le président français, tandis que Volodymyr Zelensky veut lui travailler avec les conservateurs allemands pour renforcer l'Europe. Le président ukrainien qui se dit prêt à quitter son poste si cela aide à faire revenir la paix en Ukraine, mais Volodymyr Zelensky conditionne son départ à une adhésion de son pays à l'OTAN. La guerre au Soudan à présent. Une charte pour jeter les bases d'un gouvernement parallèle à celui de Port-Soudan, signée ce week-end à Nairobi. Cette initiative du général Emeti, commandant des forces de soutien rapide en guerre contre l'armée soudanaise, a emporté l'adhésion de 24 organisations de la société civile, partis politiques et groupes armés. Mais le Kenya est aujourd'hui très critiqué, accusé d'avoir permis la création d'un gouvernement sécessionniste sur son sol, Gaël Alex.
Dès hier, le gouvernement de Port-Soudan a décidé d'arrêter d'importer du thé kényan, selon un communiqué du ministère de l'Information. Le Soudan en est un des premiers consommateurs. Après le déclenchement de la guerre en 2023, les exportations kényanes avaient chuté de plus de 70%, selon le bureau du thé du Kenya. Les retombées seront aussi diplomatiques. Ce week-end, William Ruto s'est entretenu avec Marco Rubio. Sur X, le président kényan assure avoir expliqué au secrétaire d'État américain que Nairobi offre simplement une plateforme aux acteurs clés soudanais afin de lancer un processus de paix. Sur le même réseau social, le président de la Commission des affaires étrangères du Sénat américain s'indigne que le Kenya, un allié des États-Unis, aide les forces de soutien rapide à légitimer leur règne génocidaire. Le général Emeti est en effet sous sanction américaine depuis janvier. Dans un communiqué publié ce week-end, la Commission kényane des droits de l'homme accuse également William Ruto de saboter tous les efforts panafricanistes. Elle rappelle que lors du sommet des chefs d'État de l'Union africaine, le Conseil de paix et sécurité a condamné toute ingérence extérieure dans le conflit soudanais. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
Il n'existait plus depuis 30 ans en Belgique. Le service militaire, le nouveau gouvernement fédéral du Royaume souhaite progressivement le remettre en place. Un service d'un an sur la base du volontariat. L'expérimentation pourrait débuter très vite comme une réponse au contexte géopolitique. À Bruxelles, Jean-Jacques Herry.
Jamais depuis 1994 et la suppression du service militaire obligatoire, on n'était revenu sur cette décision en Belgique, y compris de manière partielle. Même si le nouveau dispositif se base sur le volontariat, cela représente un changement de paradigme dans le Royaume, selon Alain Deneuve, chercheur à l'Institut Royal Supérieur de Défense à Bruxelles, avec en toile de fond un contexte géopolitique qui joue le rôle de catalyseur.
Aujourd'hui, avec les questions qui se posent sur la continuité à long terme de la solidarité américaine dans le cadre de l'OTAN, il est clair que la Belgique se rend compte effectivement que la question de la sécurité européenne sera désormais un problème qui devra être pris à bras-le-corps par les Européens eux-mêmes et donc aussi par la Belgique.
Le but de ce service militaire allégé d'une durée d'un an est destiné aux femmes et hommes de 18-25 ans et de former des troupes capables ensuite d'évoluer au sein de réserves de défense territoriale, l'idée étant de pouvoir prêter main forte aux militaires professionnels en cas de besoin. Cela permettra d'accroître la résilience de la Belgique face à une situation géopolitique extrêmement volatile et une Russie agressive, a expliqué le général Frédéric Vansina, grand patron de l'armée belge. Dans une interview accordée à la Libre Belgique, il dit espérer un démarrage progressif du dispositif dès l'année prochaine. Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
Des nouvelles du pape François. Dans son dernier bulletin de santé publié dimanche soir, le Vatican indique qu'il est toujours dans un état critique, hospitalisé depuis plus d'une semaine pour une pneumonie. Le souverain pontife a assuré poursuivre avec confiance son hospitalisation. Une situation qui préoccupe les fidèles. Reportage Elisa Félier à la sortie de la messe dominicale en région parisienne.
11h ce matin, sur le parvis de l'église, le père Ulrich Chikaya vient de célébrer la messe.
On prie pour le pape tous les jours à chaque célébration eucharistique. Mais par rapport à ce qu'il est en train de traverser, nous avons eu une pensée particulière pour lui. Et toute l'église s'est levée pour prier pour la santé de son pasteur.
Catherine fait partie des fidèles qui se sont levés. Depuis l'hospitalisation du pape, elle surveille souvent son téléphone.
Pendant la messe, j'ai regardé s'il n'y avait pas eu un petit drame. Il faisait beaucoup. La preuve, c'est qu'il travaillait jour et nuit, je crois. Il a usé sa santé. C'est un homme qui a lutté, surtout ces derniers temps. Et je crois qu'il a encore des choses à nous dire.
Louis, 38 ans, se rend à la messe tous les dimanches.
C'est quelque chose qui nous touche parce que c'est vraiment celui qui nous conduit.
D'autant plus que Louis a rencontré le pape en 2023 lors d'un passage au Vatican.
Avec ma femme, on a eu la chance de lui serrer la main et de discuter brièvement avec lui. Ce qui nous marque beaucoup, c'est sa proximité avec les gens, dans sa simplicité de parole. Ça fait quoi? Ça fait 13 ans qu'il est là. On se pose un peu des questions pour la suite, en disant qu'est-ce que tout son héritage qu'il nous a laissé d'ouverture, de proximité avec les gens, comment est-ce que cela va perdurer, ouais.
En attendant des nouvelles rassurantes de la santé du pape, Louis continue de prier pour son rétablissement.
Un reportage Elisa Félier. On revient dans ce journal sur l'attaque au couteau ce samedi à Mulhouse, dans l'est de la France. Un attentat qui a coûté la vie à un passant et grièvement blessé deux agents municipaux. La garde à vue de l'assaillant a été prolongée dimanche après-midi. Deux personnes de son entourage familial ainsi que son hébergeur ont eux aussi été arrêtés. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, Amélie Beaucourt.
Interpellé fin 2023, Brahim A, 37 ans, avait été condamné à 6 mois de prison pour apologie du terrorisme. D'après le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, il avait ensuite été visé par une obligation de quitter le territoire. Il assure que les autorités avaient essayé à 10 reprises et sans succès d'obtenir un laissez-passer consulaire de l'Algérie. Il était soumis à une procédure d'assignation à résidence avec obligation de pointer tous les jours au commissariat, une mesure alternative au centre de rétention administrative. Selon le ministre, toujours, son nom figurait sur le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, le FSPRT, un outil de surveillance créé au lendemain des attentats de Charlie Hebdo. Il précise également qu'un expert judiciaire avait détecté un profil schizophrène chez Brahim A. Samedi après-midi, dans un quartier central de Mulhouse où il était hébergé, l'assaillant blesse des agents de stationnement avec une arme blanche avant de poursuivre sa route et de tuer un passant de 69 ans en criant « Allahu Akbar » à plusieurs reprises. Les policiers municipaux l'ont ensuite interpellé. Après le placement en garde à vue de trois de ses proches dimanche, le parquet national antiterroriste a ajouté à ses précédents chefs d'accusation l'association de malfaiteurs terroristes.
Amélie Beaucourt. En Ligue 1, les Parisiens invincibles. Toujours aucune défaite cette saison pour le PSG. Et un nouveau succès ce dimanche contre Lyon. 3-2. En clôture de la 23e journée de Ligue 1, les hommes de Luis Enrique prennent un peu plus le large sur leur dauphin Marseille avec 13 points d'avance. RFI, les 2h10 à Paris. Une heure de moins en temps universel.